La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, c'est la fin de l'année pour parler de Maritain et je vous propose un extra, un plateau de radio avec deux interlocuteurs. Le père Claude Bressolette, doyen de la faculté de théologie à l'Institut catholique de Paris, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, vicaire général chargé actuellement de l'ordinaire des églises orientales et prêtre diocésain à Paris à Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Notre autre interlocuteur, vous le connaissez, Jean-Christophe René, physicien et philosophe. Quelles questions pouvons-nous prendre pour conclure cette année sur la philosophie réaliste? Eh bien, une question d'actualité, tant il est vrai que Jacques Maritain est un philosophe dans la cité. La question qui nous semble importante, c'est celle du débat sur la laïcité, puisque le projet de loi confortant les principes de la République fait revenir la question de la représentation de la laïcité. Pour un indice, la revue Études, revue jésuite, dans son numéro de mai 2021, propose un interview entre Dominique Avon et Valentine Zuber, tous les deux professeurs à l'Institut des Hautes Études, et notre débat contradictoire peut s'ouvrir avec la proposition que va nous faire le père Claude Bressolette sur la laïcité. Bonjour Claude Bressolette.
Bonjour.
Père, vous nous proposez une approche historique de la laïcité, puisque vous êtes à la fois historien et théologien.
Oui, mais je pense que pour comprendre la laïcité en France, il faut d'abord se rappeler la loi du 9 décembre 1905, qui a instauré la séparation des églises et de l'État. Donc cette loi, dont les premiers articles sont très importants, stipule ceci: la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Ça, c'est l'article 1. Et l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Voilà les deux premiers articles qui sont fondamentaux pour comprendre comment a été décidée légalement cette séparation des églises et de l'État. Voilà.
Cette séparation actuellement pose problème, puisqu'on revient finalement à une opposition entre, je cite ce que dit Dominique Avon, « Il y a un siècle, le modèle français faisait école ». Un siècle après, ce qui se passe à l'échelle du monde, c'est au contraire un renforcement des conceptions intégrales et non plus libérales du religieux ou de militantisme anti-religieux à géométrie variable dans le cas de la Chine, suscitant la promotion de contre-modèles. Donc deux antinomies, la position intégrale opposée à la position libérale. Comment lire 100 ans après cette loi de séparation de l'Église de l'État sur la laïcité?
Il me semble que, au moins pour ce qui est de la France, même s'il y a des revendications d'intégrale, comme il vient d'être dit, je pense que l'ensemble de la population française et même l'État sont bien d'accord pour accepter que je continue d'être valable la loi de séparation du 9 décembre 1905. Parce que, comme le rappelait d'ailleurs Aristide Briand, qui a été le rapporteur de la loi, l'État n'est pas anti-religieux, mais il est a-religieux, sans religion. Et donc, ça lui permet d'accepter toutes les formes de pratiques ou de convictions religieuses dans notre pays. aussi bien les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les musulmans, etc. Voilà.
Tout à fait. Valentine Zuber, dans cet article de la revue Études du mois de mai 2021, commente cette loi en disant « Cela ne veut pas dire que le religieux ne peut pas s'exprimer librement dans l'espace public. Théoriquement, cela revient à ce que l'État renonce à s'ingérer dans les affaires religieuses et inversement, une réserve, une suspension de jugement et de préconisation est exigée du religieux dans le domaine du politique. »
Il faut bien dire que la loi de séparation de 1905 met un terme à l'époque que l'on a appelée du concordat signé par Bonaparte en 1801, un concordat qui, à l'époque, reconnaissait que le catholicisme est la religion de la majorité des Français. On ne disait plus la religion de l'État, mais simplement de la majorité des Français. Et on accordait, l'État nommait les évêques, mais les évêques recevaient, comme l'on dit, l'institution canonique du pape. Et le pape pouvait faire démissionner ses évêques tout à fait comme l'État. Et surtout, l'État assurait un traitement aux évêques et aux curés et aux vicaires. Donc on vivait sous ce régime jusqu'à la loi de séparation.
Maintenant, ce modèle de traitement donné par l'État aux vicaires et aux prêtres, c'est le modèle de l'Allemagne, qui n'est pas un État laïque.
Oui. Mais l'Allemagne n'est pas laïque à la façon française.
Tout à fait. Et si on change de plan, et qu'à partir de cette histoire, nous passons au plan philosophique, comment peut être reçue la pensée d'un auteur chrétien, comme Jacques Maritain, qui s'articule sur la subalternation des disciplines et qui rend indissociable finalement l'articulation entre philosophie et théologie de manière très organique et qui est très difficilement recevable dans le monde philosophique actuel qui a d'autres repères. Comment peut-on arriver à passer de ce plan historique à ce plan philosophique qui, pour Maritain, est viable dans la période de l'entre-deux-guerres, mais actuellement, en 2021, on n'en entend pas parler, il est à côté de la scène actuelle philosophique et l'explication vient peut-être de cette séparation de l'Église et de l'État.
Oui, là je ne me rends pas bien compte de ce que peut représenter aujourd'hui la pensée de Maritain. Ce qui est sûr, c'est qu'il était tout à fait partisan de distinguer les réalités pour mieux pouvoir les unir. Or, justement, ce que la loi de séparation a finalement obtenu, alors qu'au début, elle a été condamnée par le pape, un certain nombre d'évêques l'avaient plus ou moins acceptée, et il a fallu attendre 1923 pour que la situation s'apaise et que l'on reconnaisse les associations cultuelles qui avaient été prévues par la loi pour gérer la situation financière et économique des paroisses. Donc c'est en 1923 que la situation s'est apaisée du point de vue des rapports entre l'État, les départements, les communes et d'autre part les paroisses et les diocèses.
Merci de cette précision. Et sur le plan simplement culturel, nous pouvons nous référer à un événement relativement récent et qui a impacté, comme on dit actuellement, le monde entier. Il s'agit de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà ce qu'on entendait dans l'émission L'Esprit public de France Culture du samedi qui a suivi l'incendie du lundi. Et la position de Hubert Védrine est tout à fait intéressante.
Mais sur les racines chrétiennes, puisqu'on l'évoque, Hubert Védrine, alors pour le coup, je partage totalement ce que vous avez dit sur la sécularisation, comment les Lumières ont sécularisé le christianisme en Europe depuis deux siècles. On est dans un registre culturel, on n'est pas dans un registre cultuel par rapport à Notre-Dame et par rapport à cette catastrophe. Donc c'est quelque chose qui est dissible. si je puis dire. En revanche, il y a quelque chose qui est occulté ou pudiquement la faiblesse de la politique européenne en matière culturelle, qui est absolument tragique, qui n'était pas dans les traités, qui l'est à peine dans les traités récents de Lisbonne. Et ça, c'est ce qui est troublant et presque gênant, c'est cette espèce d'émotion, très très mise en scène ou très, je ne doute pas de la sincérité des dirigeants européens pour être aux côtés des Français dans ce deuil et ce que je qualifierais d'indifférence de l'Europe depuis 50 ans sur ces questions-là.
Laïcité, esprit européen, comment vous réagissez à cette question culturelle qui reprend finalement la question de la fondation de l'Europe et de sa délimitation ou de son identité?
Je rappelle quand même que la cathédrale de Paris, comme toutes les cathédrales de France, sont devenues propriété de l'État à la suite de la Révolution. Les églises qui existaient avant 1905 sont la propriété des communes. Et donc le fait que Notre-Dame de Paris soit à restaurer, à reconstruire pour la partie qui a été détruite par l'État, c'est tout à fait normal puisque l'État en est propriétaire. Mais c'est vrai que la cathédrale est affectée au culte catholique. On ne peut pas y célébrer des cérémonies musulmanes ou bouddhistes, c'est affecté au culte catholique.
Il s'agissait dans l'émission d'une identité européenne et juste avant, Hubert Védrine avait pris un billet d'euros pour montrer que finalement la représentation de la cathédrale de Paris n'existait pas, était éclipsée au profit d'une représentation abstraite de la cathédrale X. Et il le déplorait en disant « on a eu peur d'une singularité, d'une identité » et finalement il faisait le reproche de nominalisme dans notre appréhension du monde, au détriment de ce qu'on peut appeler un réalisme. Qu'en pensez-vous? Comment on peut l'articuler à ce débat sur la laïcité? Est-ce que ça vous semble périphérique ou au contraire central?
J'ai l'impression que c'est une vision un peu abstraite des choses. Car une cathédrale, ça n'est pas simplement un édifice en l'air, abstrait, c'est un édifice qui accueille des gens, des fidèles. Outre, notamment la cathédrale de Paris, est visitée par d'innombrables personnes qui parfois ne sont absolument pas ni religieuses ni catholiques. Mais n'empêche que la cathédrale, elle est faite depuis son origine pour que puisse être célébré le culte et la foi catholique. Donc, voir une façon très européenne et abstraite des choses ne me paraît pas correspondre à la réalité.
Merci. Peut-être, Jean-Christophe, voulez-vous réagir dans cette première partie de l'émission?
Eh bien, écoutez, d'abord, je vous remercie d'avoir posé ce problème de la laïcité qui revient dans le débat public et je pense que effectivement, c'est très important de clarifier les choses. Et le père, à mon sens, a été extrêmement clair et didactique, donc je le remercie pour cette présentation très factuelle. Je reviendrai sur certains points de détail, c'est peut-être pas le moment ici de le faire. Ce que je voudrais dire pour appuyer un petit peu l'aspect de la séparation entre l'Église et l'État, que ce n'est pas du tout une spécificité française. On l'a dans d'autres régimes, qu'ils soient démocratiques d'ailleurs ou non démocratiques, on pourrait y revenir. Mais il y a bien une spécificité française, notamment, on peut dire, grâce à l'influence d'Aristide Briand sur les débats et sur le texte final. Ça a été quand même une foire d'empoigne, ça a été des débats extrêmement houleux. Et on peut dire que ce qui caractérise vraiment cette laïcité dite à la française, c'est entre guillemets, parce qu'il faudra expliciter ce que ça veut dire, la neutralité de l'État. par rapport à la religion, c'est-à-dire que l'État, comme il a été rappelé dans les paroles d'Alexis Boyan, n'est pas ni religieux ni anti-religieux, il est a-religieux et il est là pour promouvoir l'expression de toutes les pensées. Et c'est important de noter que l'article 1 parle bien de toutes les pensées, c'est-à-dire pas seulement les pensées religieuses, mais aussi des pensées athées et non-croyantes. Donc ça, c'est la spécificité française et ce qui est souvent très mal compris à l'étranger et notamment dans les pays anglo-saxons. On pourra peut-être y revenir plus tard.
Tout à fait. Dans l'article des études, justement, Valentine Zuber s'exprime ainsi sur la différence entre les deux systèmes, c'est-à-dire la différence d'appréhension anglo-saxonne du principe de laïcité et la différence française. D'un point de vue juridique, la séparation française de l'Église et de l'État y est plus ancienne, puisqu'elle date de 1791, écrit-elle. Et elle est beaucoup plus stricte, parce qu'il n'y a pas toutes ces exceptions que nous avons. La différence est qu'en France, l'État se méfie du religieux, tandis qu'aux États-Unis, ce sont les religions qui se méfient de l'État. Père Claude Bressolette, comment vous recevez cette distinction ?
Oui, je me réfère à un ouvrage de Monsieur Jean Bobéraud, qui est professeur à l'École des hautes études, et qui distingue 6 formes de laïcité. Alors, c'est vous dire, et je les cite sans les expliciter davantage, une laïcité séparatiste, une laïcité autoritaire, une laïcité anticléricale, une laïcité de foi civique, et enfin, une laïcité de reconnaissance et une laïcité de collaboration. Et qui conclut d'ailleurs dans un autre chapitre que la laïcité est une réalité complexe. Alors effectivement, selon les périodes de la vie politique et sociale en France, la laïcité a été parfois une laïcité qui se voulait anticléricale, c'est-à-dire pour que tout ce qui était religieux soit concentré dans la sphère privée des individus, alors que ce n'est pas du tout ça que dit la loi de 1905, puisqu'elle reconnaît le libre exercice des cultes. Or, les cultes sont des célébrations publiques. Donc, la façon dont on se situe par rapport à la foi, à la religion, et puis à la coexistence dans un même pays de convictions et de pratiques religieuses ou non religieuses, tout ceci fait que, à mon sens, je trouve que la loi de 1905 permet quand même une coexistence générale de tous, puisque l'État n'impose aucune conviction religieuse, aucune pratique religieuse.
Je vous remercie. Il y a 10 ans, il y avait été question de moins ou de plus, c'est-à-dire d'une laïcité conçue comme une soustraction, en hôte, laissant un espace vide et creux, alors qu'on aurait proposé une laïcité par addition, proposant l'addition à propos de la demande, de la requête qui avait été faite de ne pas avoir de signes distinctifs religieux. Est-ce que cela rejoint un des modèles de Jean Bobéraud ?
Alors, c'est possible, je pense, il faudrait regarder, son livre s'appelle « Laïcité sans frontières ». Et alors là, je ne peux pas me reporter à l'une de ces formes de laïcité qu'il reconnaît. Ce que vous dites là pourrait correspondre à une laïcité de reconnaissance, mais pas une laïcité anticléricale, certainement pas.
Tout à fait. Alors, la question de la sphère privée et de la communauté me semble fondamentale et cela rejoint la fameuse loi Le Chapelier, 1791, qui refusait fermement la constitution de corps intermédiaire. L'État n'a de relation véritable qu'avec des individus. Cela s'est traduit par des législations répressives, souligne toujours pareil notre Valentine Zubler, envers certains groupes religieux considérés comme suspects ou possiblement menaçants envers la liberté individuelle de leurs fidèles, comme les congrégations religieuses catholiques, par exemple, à travers les lois de 1880, 1901 et 1904, ou plus encore, plus récemment, les mouvements dits sectaires pour la loi Abou-Picard de 2001. Que pensez-vous de cette articulation de l'individuel et du communautaire ou du corps intermédiaire ?
Effectivement, il faut distinguer la foi, qui est une attitude et une conviction personnelle, et puis la communauté qui rassemble les croyants pour l'exercice du culte. Lorsque le Christ a fondé l'Église, il a bien fondé une communauté, mais une communauté qui comportait des personnes, je ne dis pas des individus, mais des personnes qui devaient pouvoir exprimer leurs convictions profondes dans leur relation avec Dieu, avec le Christ, avec l'Esprit Saint.
Je vous remercie de faire la distinction entre individu et personne. Nous revenons à Maritain, qu'il a fait dans Humanisme intégral, publié en 1936. Et au lieu de les opposer, il dit qu'on est les deux à la fois. On est l'individu au plan social et on est la personne au plan anthropologique, métaphysique et spirituel. Et renvoyer les deux dos à dos au détriment d'un des deux, c'est très grave. Et vous savez que la base de Humanisme intégral, c'est d'opposer la sanctification du profane à ce qui a été très souvent le fer de lance ou la conception de l'Église catholique, à savoir l'articulation du sacré et du profane. Remplacer le sacré, qui semble une valeur ou un héritage païen, par la sanctification éminemment chrétienne, c'est ça qui fait l'humus de l'humanisme intégral de Maritain en 36.
Tout à fait, oui.
Avant de nous quitter, il reste 2 minutes, je voulais rendre la parole à Jean-Christophe afin de coudre notre prochaine semaine sur ce débat. La semaine prochaine sera plus philosophique, le père Bressolette sera toujours présent et donnera un point de vue, comme l'a donné aujourd'hui Jean-Christophe, pour ponctuer les remarques. Jean-Christophe, vous terminez notre émission de cette semaine.
Bien, écoutez, d'abord je voudrais remercier le père Bressolette d'avoir cité Jean Baudero, parce que je pense qu'aujourd'hui en France, si vraiment on veut comprendre les différentes arcanes de la laïcité, c'est probablement l'historien qu'il faut en écouter et en tout cas lire. Il existe de nombreux ouvrages, vous en avez cité un, et je pense aussi qu'il y a pas mal de vidéos présentes sur YouTube qui sont particulièrement intéressantes. L'autre chose, c'est sur la différence que vous aviez citée concernant la laïcité dans le monde anglo-saxon, plus spécifiquement, on va dire, américain, et vous aviez cité, je pense, Valentine Zubler. Je tiens aussi à dire que sur le site du gouvernement, il y a un article qui est paru sur la laïcité en Europe, de Roselyne Letteron, professeure de droit public à l'université de Paris-Sorbonne, et qui est très très bien fait. Et pour elle, en fait, la grosse différence, ça revient un petit peu à ce que disait Valentine Zubler, mais elle l'exprime différemment, c'est que la neutralité en France interdit que le service public soit assuré de manière différenciée en fonction des convictions religieuses. Aux États-Unis, séparation de l'Église et de l'État vise à protéger essentiellement les différentes communautés religieuses qui existaient à l'époque et qui fuyaient la plupart du temps des pays européens dans lesquels elles étaient réprimées, donc de les protéger contre l'État. Et c'est effectivement là une différence fondamentale.
Protection de l'État ou pas, Nous continuerons la semaine prochaine avec un plan plus philosophique. Merci à vous deux, Jean-Christophe René, Père Claude Bressolette.